15h. Les Arts Sacrés, une émission proposée et présentée par Marie-Madeleine Ray.
Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. Bonjour à tous, cette phrase doit vous parler directement, puisque nous allons parler d'épiphanie aujourd'hui, ou d'adoration des mages. C'est saint Matthieu au chapitre 2, versets 1 à 12, qui nous raconte l'épisode. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef » qui sera pasteur de mon peuple Israël. » Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Voilà donc relaté par Matthieu ce moment si largement représenté dans l'histoire de l'art, l'adoration des mages ou l'épiphanie. Ce mot d'épiphanie qui vient du grec « épiphaneia » signifie « apparition ». Pour les chrétiens, nous savons que cette grande fête commémore la manifestation du Christ à toutes les nations, y compris les païens. À travers les mages, au nombre de 3, toutes les races sont représentées. Nous y reviendrons. Matthieu met dans la bouche des mages « Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui ». C'est bien le résumé du thème évangélique, très représenté par les artistes depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours, mais plus particulièrement du XIVe et XVe. Quoi qu'il en soit, dans tous les styles, nous vérifions les mêmes constantes. 3 hommes, debout ou à genoux, généralement richement habillés, offrant des coffrets et des vases à l'enfant Jésus, lui-même enveloppé de l'ange, vêtu d'un voile, ou carrément nu sur les genoux de sa mère. À l'arrière peuvent être présents Joseph, des bergers, des saints ou donateurs, le bœuf et l'âne, des dromadaires. Mais au plus simple, la Sainte Famille et les 3 mages, et quasiment toujours, quelque part dans le décor, une étoile brillante. Cette mise en scène n'est donc pas gratuite. Les peintres, dessinateurs et sculpteurs en connaissaient l'origine. Or, dans saint Matthieu, il n'est pas question du nombre, encore moins des noms des mages. On en déduit dans un sens théologique que ces hommes étaient des savants, des astronomes ou des astrologues, qu'il est donc logique qu'ils aient été guidés par une étoile et que l'on voit ici la portée du message. Dieu se fait connaître à tous les peuples de la terre. Et pour que le symbole soit plus fort, c'est Origène qui, au IIIe siècle, à partir du nombre des dons, a évoqué le nombre de trois mages. Pour deux raisons. D'abord, pour symboliser les trois âges de la vie. Les mages sont en effet représentés l'un âgé, courbé, barbe et cheveux blancs, c'est celui en général qui s'agenouille devant l'enfant. Un autre d'âge mûr, et le troisième dans la fraîcheur de la jeunesse. La deuxième raison pour laquelle Origène évoque trois hommes renvoie aux trois parties du monde connues alors, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et bien que Matthieu les fasse venir d'Orient, les interprétations futures ont donné à l'un un visage d'Africain, au deuxième un faciès asiatique, au troisième une figure d'Européen, qui peut d'ailleurs être un sémite. L'important est pourtant le message que Matthieu adresse à ses lecteurs. Le terme d'Orient signifie bien que Dieu se révèle non seulement à sa famille, au sens élargi du terme, mais aussi aux nombreux peuples dispersés sur toute la terre, passés, présents et à venir. Le message d'un Dieu incarné est universel et le catalyseur de cette bonne nouvelle est, si l'on peut dire, la personne des trois mages, personnifiant le monde, chiffre extrêmement symbolique, rejoignant le chiffre 3 de la Sainte Famille ou de la Sainte Trinité. À la même époque, au IIIe siècle, Tertullien s'inspire des psaumes 67 et 71 pour affirmer que ces trois mages sont des rois. Vers toi viendront des rois apportant des présents. Et plus loin, les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Et ceci à la suite d'Isaïe qui proclamait « Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever ». Non seulement ce sont des savants, mais aussi des rois. Et Saint Césaire d'Arles, au VIe siècle, proclame « Ces mages sont des rois ». Cette théorie n'est pas innocente. Le projet de Dieu est non seulement de révéler son Fils à toute la terre, mais aussi bien sûr à toutes les catégories d'hommes peuplant cette terre. Ainsi, les bergers ayant précédé les mages à la crèche, évidemment, ils venaient des alentours, ils étaient plus près. Mais ils représentaient, eux, les plus pauvres et les plus simples. Ce qui fait dire aux Juifs de l'époque que le Messie ne pouvait pas naître dans de telles conditions d'indigence, sans gloire ni pouvoir, et que ces pauvres bergers devaient être bien innocents pour croire que ce bébé était Dieu. C'est pourquoi Origène et Tertullien insiste sur le fait que ces mages sont des rois, c'est-à-dire les détenteurs non seulement de savoir, mais aussi de puissance, de pouvoir, donc de richesse. Et l'enseignement suprême est que cet enfant va faire ployer les genoux au savoir, au pouvoir et aux richesses. Un mot de ces offrandes déposées au pied du bébé. Ce sont les pauvres témoins de la faiblesse humaine. Saint Bernard les interprète de façon très terre-à-terre. L'or devait alléger la pauvreté de la Vierge. L'encens devait tout simplement masquer la mauvaise odeur de l'étable. Et la myrrhe consolider les membres de l'enfant en expulsant les vers de ses intestins. Je cite. Et au-delà de ces considérations pour le moins réalistes, nous pouvons adopter une symbolique plus édifiante. L'or, symbole de royauté du Christ, royauté de l'amour. L'encens, symbole de la divinité du Christ, à qui nous nous adressons par la prière, qui monte vers Dieu, tel l'encens. Et la myrrhe, symbole de l'humanité du Christ, puisque la myrrhe était un des ingrédients nécessaires à l'embaumement, pour la conservation des corps après la mort, et donc symbole de résurrection. Amour, prière et résurrection, nous avons là représenté par trois hommes, trois races, trois âges, le trio gagnant de la sainteté, si vous me permettez l'expression. Ces hommes riches et puissants viennent se dépouiller aux pieds d'un enfant de tous les fardeaux de péché et deviennent à leur tour des enfants devant le roi du ciel. Cet épisode serait d'une tristesse infinie s'il n'y avait l'espoir de la rédemption. Quant au nom des mages rois, ils apparaissent pour la première fois à Ravenne au IXe siècle, dans le Liber Pontificalis, où l'on trouve les prénoms de Gaspard, Melchior et Balthazar. La légende dorée au XIIIe siècle est plus prolixe, puisque nous apprenons que leur nom en latin était Apellius, Amerius et Damascus. En hébreu, Galkalat, Malgalat et Saratine. Et en français, Gaspard, Melchior et Balthazar. Pour notre satisfaction cartésienne, nous pouvons recomposer le puzzle suivant. Gaspard, l'Européen, peut-être sémite, le plus âgé, le plus expérimenté, porte l'or, symbole de royauté. C'est la représentation de l'amour, de la sagesse. Melchior, l'Asiatique, d'âge mûr, porte l'encens, symbole de divinité. C'est la représentation de la prière. Balthazar, l'Africain, en pleine jeunesse, porte la myrrhe, symbole d'humanité. C'est la résurrection ou la mortification de la chair.
Dans la vallée du Lot, 92.5.
Regardons maintenant comment les artistes ont représenté l'adoration des mages. L'art byzantin, né de la fusion de l'art chrétien primitif et de l'art gréco-oriental, se caractérise par un sens très développé du sacré. Et au-delà, jusqu'au milieu du XVIe siècle environ, nous assistons à des représentations très statiques de l'adoration des mages. Les icônes, les enluminures, les tableaux de commande pour les monastères, les sculptures naïves des chapiteaux romans sont traités de façon intimiste. L'essentiel est représenté avec un respect de l'idéal religieux. L'icône byzantine reste toujours une image sainte, sans aucune addition de réalisme terrestre. Les visages hiératiques, les attitudes figées des personnages sont la preuve de la représentation à la lettre des scènes évangéliques. La part de créativité et d'originalité des artistes ne pouvait résider que dans le décor ou le choix des couleurs et non pas dans le canon de la mise en scène. Les règles établies interdisaient l'imagination. Au XIVe siècle encore, à son tout début, Giotto garde ses concepts. À la chapelle de l'Arena à Padoue, illustrant la vie de Jésus et de Marie, il présente la scène de l'adoration des mages comme une belle image sainte. Les rois sont pieds nus et revêtus de grandes capes blanches. La Sainte Famille est blottie sous un auvent en bois. La Vierge, vêtue de rouge et bleu, tend son fils entouré de bandelettes à l'aîné des mages, humblement agenouillé devant elle, sa couronne dorée déposée à ses pieds. Un ange, debout à côté de Marie, tient le vase rempli d'or que lui a donné le premier mage. Les deux autres se tiennent respectueusement debout derrière lui, le plus jeune semblant être une jeune fille, le front ceint d'un ruban doré, ouvrant délicatement un vase en argent renfermant la myrrhe. Le second est un peu caché derrière lui, tête penchée, tenant dans ses bras une sorte de grand cornet d'encens. À gauche, un homme tend le cou vers deux chameaux qui apparaissent joyeux dans le décor, leur tête ressemblant plutôt à celle d'âne. Appuyé contre un rocher, l'abri de bois charpenté symbolise la pauvre étable, en plein vent, où la Sainte Famille reçoit l'hommage du monde. L'étoile ici s'est transformée en comète dorée qui vient illuminer le toit de la cabane. Pureté des lignes, simplicité du rendu des vêtements, visage serein, y compris des chameaux, tout exprime l'humble moment. Le grand tableau que Hans Memling a peint pour la Guilde des Tanneurs de Bruges en 1480 fait la part belle à l'adoration des mages. Intitulé « Les sept félicités de Marie », cette œuvre montre plusieurs épisodes de la vie de Marie. L'adoration des mages est au premier plan, au centre. Et ici, pour la première fois, nous avons la représentation d'un roi noir. C'est le plus jeune qui a ôté son chapeau en arrivant devant la masure où se tiennent Marie, Joseph et l'enfant Jésus. L'enfant Jésus qui est tout nu et qui tend sa main droite au premier roi qui l'embrasse. Joseph se tient debout dans l'embrasure de la porte, le bœuf et l'âne derrière lui. Des cavaliers et des chameaux, des autochtones et des orientaux se mêlent joyeusement autour de la maison. Un chien blanc est couché au premier plan, symbole de fidélité. J'ai un attachement tout particulier pour l'œuvre de Jérôme Bosch qui se trouve au Prado. Il y a dans ce tableau ce qu'il n'y a pas dans les autres œuvres plus connues de Jérôme Bosch. Ici, l'artiste donne tout son sens à la scène. Sous l'auvent ruiné d'une masure en pisé, la Vierge, habillée de noir, est assise, recevant l'hommage des trois rois. L'ordre est respecté. Le plus vieux devant, en rouge, à genoux, à côté du second, debout, un peu plus jeune, et vêtu d'un capulet de brocart assez sobre. Quant au troisième, il est vêtu d'un manteau blanc qui contraste avec sa peau noire. Joseph ne semble pas présent. On aperçoit la tête de l'âne dans l'ouverture de la porte, à côté de la Vierge. Dans l'embrasure de la porte d'entrée, on aperçoit trois personnages vêtus à la juive. La seule concession à l'esprit espiègle de Bosch est ce personnage juché sur le toit par sa curiosité, tandis que deux ou trois têtes anonymes apparaissent dans les trous de la maison ruinée. Le paysage est fermé au fond par une ville qui est séparée de la masure par des collines désertiques. Courant dans la petite plaine, une troupe de cavaliers traverse un gué, allusion au futur massacre des innocents. Autre clin d'œil, si j'ose dire, au futur proche, un homme tenant un âne sur lequel sont juchés une femme et un bébé, sont représentés tout petits, au loin, sur un chemin désert. Allusion, évidemment, à la fuite en Égypte. Cette œuvre est pourtant très tranquille, pleine de respect, montrant bien que Bosch n'était pas forcément l'artiste fou que d'autres œuvres pourraient laisser croire. La belle composition de Dürer, Albert Dürer, peinte en 1504, regroupe les trois rois autour de la Vierge et de l'Enfant. Marie est assise, vêtue de bleu, au voile blanc. Le roi le plus âgé est agenouillé et semble parler à l'enfant à qui il offre un coffret doré que s'approprie le bébé de façon très humaine. Derrière, le second mage porte un grand vase à pied en vermeil. Son manteau, orné de pierreries, couvre une robe de velours vert. Son visage retient le regard. Entouré de longs cheveux frisés, c'est l'autoportrait de l'artiste Albert Dürer. Il est tourné vers le troisième mage, le noir, superbement vêtu d'un mantelet bleu et de bas rouges. Il porte un vase en vermeil orné d'un serpent. C'est le vase de myrrhe servant à l'embaumement des corps, le serpent étant le symbole de mort et de corruption. L'âne et le bœuf sont derrière la Vierge, l'âne hennissant. Un serviteur oriental termine la scène au premier plan et évoque le cortège accompagnant les mages. Le fond de village escarpé et les restes de construction sont l'allusion au retour à l'Antiquité, remis au goût du jour par la Renaissance et aussi au renouvellement opéré par le christianisme. Diego Velázquez peint en 1619 l'Adoration des mages qui se trouve au musée du Prado à Madrid. En ce tout début de XVIIe siècle, voici une scène traitée avec réalisme. Les trois mages, s'ils apportent or, encens et myrrhe, sont de simples hommes, cheveux courts, barbus ou glabres, blancs ou noirs. Ils sont vêtus simplement comme les gens de la société madrilène de l'époque. La Vierge est en jaune et tient son bébé emmailloté, bras et jambes emprisonnés, raide dans ses linges. Seule concession à la richesse supposée des mages, les trois vases présentés sont en vermeil. Joseph également, brun, barbu, est un homme simple, affectueux vis-à-vis de Marie. Le bébé, quant à lui, a un visage de petit garçon brun, aux yeux noirs, regardant avec curiosité le mage devant lui. Ici, tout est réel. Les auréoles ont disparu. Nous assistons à une scène de la vie quotidienne. C'est la nuit et le paysage est éclairé au fond par le soleil couchant. Nous allons terminer avec l'œuvre de Delacroix. Eugène Delacroix, qui peint dans la première partie du XIXe siècle cette œuvre déjà impressionniste. À grands coups de brosse, le peintre a représenté la scène de façon dramatique. La Vierge, au visage juvénile, cheveux bruns courts, semble déséquilibrée par son enfant qui s'agite sur ses genoux. Les trois hommes, au contraire, se pressent à ses pieds. Vêtus respectivement de rouge, jaune et vert, le plus âgé, le second et le mulâtre présentent leurs dons avec empressement. Joseph, aux côtés de Marie, nettement plus âgé qu'elle, baisse les yeux et protège l'enfant de son bras, attentif à ce qu'il ne tombe pas. D'autres personnages entourent les premiers dans un flou artistique où les visages s'estompent. Mouvement ondulant des vêtements, à plat de couleurs, visage mal défini, sauf celui de la Vierge aux traits fins, angelots potelés voletant au-dessus de l'enfant, ruines brossées à grands coups, tout concourt au contraste entre la magnificence des costumes et le dénuement de l'enfant. Cette émission est terminée. Je vous remercie de votre attention. Merci à Armand pour l'aide technique. À très bientôt sur notre antenne.
Les arts sacrés. Une émission qui vous a été proposée et présentée par Marie-Madeleine Rey.
Vous aimez les émissions de Radio Présence ? Microscopie, paroles d'auteur, vivante église, des clés pour vivre.
Présence.
Toutes ces émissions et bien d'autres encore sont disponibles sur CD. Commandez-les par courrier à Radio Présence,
4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse.
Ou par email à contact@radioprésence.com.
Présence.
Présence.
L'onde positive.